Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Il y a juste moi qui ne sera pas en silence, mais... Je te prie que moi-même, je sois à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église, Seigneur, par la parole de Dieu. Et je te prie, Seigneur, que ce cœur tranquille, Seigneur, produise une résolution à faire quelque chose. Mais Seigneur, on veut prendre un temps non productif de rien faire ce matin, Seigneur Dieu, afin d'être devant toi. Ce monde n'évalue pas beaucoup ce temps-là, ce temps où on semble pas rien produire, mais où est-ce qu'on laisse Dieu agir dans nos vies par sa parole, Seigneur, par la prédication de la parole de Dieu. Je prie pour les enfants, Seigneur, qu'ils soient en paix, qu'ils soient calmes dans leur classe, prêts à apprendre, Seigneur Dieu. Et je te remercie pour les parents, pour les moniteurs qui s'occupent des enfants semaine après semaine, afin qu'eux aussi puissent avoir une église qui soit adaptée à leurs besoins. Alors, merci pour leur vie, merci pour leur consécration. Et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Les enfants peuvent aller à l'éducation chrétienne. Avant de commencer mon message, dans le fond, je suis en train d'étudier Galates et je vais me donner le temps de l'étudier, faire les premières études de fondation du livre. C'est un des premiers livres de la Bible qui a été écrit avec Jacques. Et les deux livres parlent de l'importance des œuvres. Mais Galates va mettre l'emphase, il va parler des œuvres, mais il va les placer en par rapport à la grâce de Dieu. Et vraiment, le livre de Galates, c'est pour placer la grâce de Dieu dans la vie du croyant. Et c'était ce que l'Église des années 47-48 avait besoin d'entendre dès le fondement de cette jeune Église-là. Et donc, on va avoir besoin de comprendre mieux la grâce de Dieu au travers du livre de Galates. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Est-ce que ça va me prendre un mois pour préparer ça? Je ne sais pas. Mais en attendant, je vous ai préparé une autre série, quelque chose qui est plus accessible, quelque chose qui est plus proche de moi et que je maîtrise un petit peu mieux, bien que je me prêche à moi-même dans ce sujet-là que vous allez voir aujourd'hui. C'est quand même quelque chose que ça fait un an que j'ai étudié dessus, puis j'ai mis en pratique aussi. Alors... D'après moi, le mois de novembre, pour moi, c'est le mois des morts, souvent, c'est un mois, tu sais, j'appelle ça un mois intérieur. Avant Noël, on est comme avant la frénésie du temps des fêtes, il fait froid dehors, les journées, il fait noir. La dépression sort un petit peu plus durant ces temps-là, jusqu'au mois de février. Donc, pour moi, ce qui est important en tant que votre pasteur, c'est de s'encourager ensemble à s'approcher de Dieu dans un temps de prière et d'écoute. Écoute active du Seigneur. Fait que c'est pas pour moi des messages qui sont très on va gagner le monde pour Jésus nécessairement, mais on va se laisser gagner par Jésus dans cette période de l'année qui est un petit peu particulière. Donc, j'ai pas vraiment un livre que je vais étudier avec vous, un livre de la Bible que je vais étudier avec vous, mais je me suis laissé influencer par une femme qui s'appelle Ruth Haley Barton, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'invitation à la solitude et au silence ». Et donc, c'est là-dessus qu'on va s'entretenir un petit peu. J'ai lu son livre au moins 6 fois cette année. Je l'ai lu les yeux fermés. Donc, je le lis dans ma fameuse chaise que j'appelle ma chaise avec Dieu. Dans ma chambre, je me suis fait une place où j'ai une petite table, une chandelle, puis une chaise où ce que quand que ma famille le sait, la porte est fermée, c'est mon endroit pour être en silence. Et donc, je l'ai lu les yeux fermés parce que je lis mes livres en audio. Donc, ça me permet, quand je suis sur la route ou quand je travaille, de continuer à lire et à grandir. Pour moi, la solitude, c'est j'ai grandi avec l'idée que la solitude, c'était quelque chose qui était évité à tout prix. Quand je voyais ma mère seule, puis mes amis qui jouaient, je restais avec ma mère pour pas qu'elle soit seule. Pour moi, la solitude est un ennemi et c'est quelque chose que tu veux éviter le plus possible. Tu veux même enlever dans la vie des autres si tu es capable. Et donc, quand je voyais des personnes seules, j'essayais de les accompagner pour chasser ce monstre-là qui est la solitude. Et au courant de ma vie, j'ai découvert, plus tard dans mon adolescence, que la solitude était quelque chose à rechercher. Même si j'ai de la difficulté, j'ai un paradoxe à l'intérieur de moi parce qu'il y a deux choses complètement contraires. Et quand je me sens seul, parfois je me sens abandonné et d'autres fois je recherche la solitude parce que c'est là que je me sens moins seul, parce que je vais connecter avec mon Dieu. Et donc, vers 17 ans, j'ai rencontré Dieu dans la solitude. C'est dans la solitude d'un monastère obligatoire où je devais lire des textes bibliques puis faire le silence sur moi-même que j'ai commencé à faire un voyage vers l'intérieur et que j'ai ressenti pour la première fois l'amour de Dieu d'une façon plus personnelle. Donc, j'ai rencontré Dieu dans cette retraite-là. C'est aussi dans une forêt que, après avoir accepté le don de la vie éternelle, je me rappelle d'un moment où j'étais inconsolable et je suis allé marcher dans la forêt et là, j'ai entendu les ruisseaux, les oiseaux, et que j'ai retrouvé une paix, mais une paix qui va au-delà des mots. C'est pas des mots qu'on m'a dit, c'est pas une voix que j'ai entendue, mais c'est une rencontre avec Dieu dans sa nature, dans sa création. Et donc, il y a deux énergies ou deux forces qui luttent en moi aussi. Celle de produire, parce que quand tu fais des choses, tu obtiens des résultats, puis quand tu n'en fais pas, tu n'en as pas. Fait qu'il y a cette force-là qui est produire, faire quelque chose pour voir arriver quelque chose, puis il y a l'autre force qui agit en moi, c'est de ne rien faire de productif pour être ou devenir quelqu'un devant Dieu. Ce sont deux forces qui agissent au-dedans de nous, en tout cas au-dedans de moi. Et donc, j'ai, au courant de mon ministère, depuis que je suis chrétien, eu l'occasion d'avoir des périodes de solitude plus courtes ou plus longues. Comme par exemple, ça pouvait aller jusqu'à une semaine de jeûne où je ne voyais personne. Je me prenais une chambre à quelque part, puis je partais une semaine. Puis je ne faisais que silence. Hein? Et donc, je connais ces moments-là de plaisir dans la solitude. J'ai la chaise, comme je vous dis, où je prends le temps de m'arrêter un peu. Puis, cette autre force qui lutte en dedans de moi, c'est que je veux toujours faire plus pour avoir des résultats. Puis, il y a cette autre force qui dit « moins, c'est plus ». Prends le temps de t'arrêter, tu vas aussi devenir le résultat. Et donc, j'ai une lutte pour trouver la balance entre si tu fais, t'as un impact, si tu fais rien, tu deviens quand même quelqu'un devant Dieu. Et donc, la série, c'est pour moi. Et puis, ces principes-là, je pense qu'ils vont aussi quand même être bons pour tout le monde. Fait que je me parle, si vous voulez écouter, vous êtes les bienvenus là-dedans. La solitude, c'est une place où on est invité, c'est pas une retraite forcée. Le silence qu'on s'impose à soi-même, des temps définis où on va juste faire le silence puis être devant Dieu, c'est pas quelque chose qui vous allez être forcé de faire si vous voulez faire partie de cette église ou si vous écoutez ces messages. Par contre, j'aime beaucoup le titre du livre de la dame, elle appelle ça l'invitation à la solitude et au silence. Je crois que c'est une invitation à laquelle nous désirerions répondre. Et aujourd'hui, si simplement vous avez entendu son invitation à faire le silence pour une période de temps donné, ça peut être commencer par des 5 minutes, des blocs de 5 minutes. Si j'ai réussi à juste vous lancer cette invitation-là, si j'ai juste pu montrer que ce n'est pas du bouddhisme maquillé, mais vraiment que c'est une valeur chrétienne que nous devons racheter, puis que ça a lancé un appel dans votre cœur, puis qu'il y a un désir qui veut répondre à ça, vous allez encore avoir le choix de dire oui ou non à cette invitation-là. La solitude, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est à éviter à tout prix ou à rechercher? Est-ce que la solitude, c'est pour vous un synonyme d'abandon ou bien non, enfin un break? Est-ce que pour vous, la solitude, ça a de la valeur parce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de productif? Est-ce que c'est inutile? Est-ce que vous vous sentez invité au silence? Donc, comme je disais, c'est à l'été 2015 que j'ai lu un livre de Pete Scazzaro sur la santé émotionnelle. Puis dans son livre, il parlait il appelle ça en anglais de Daily Office ou les 3 breaks par jour, on pourrait dire. Puis il écrit un livre aussi là-dessus. Fait que là, dans son livre, je lisais sur la santé émotionnelle, sur l'importance de couper nos journées puis couper nos semaines, puis couper nos mois aussi. Hein? Il nous parle du sabbat dans son livre, sans dire que le sabbat, c'est une loi sous la Nouvelle Alliance. Il parlait du sabbat, il parlait de l'importance de faire reposer une terre qui devait être productive aussi. Et puis, ça parlait à mon cœur, tout ça. Et j'ai commencé à chercher sur Internet, simplement, « Solitude, silence », j'ai cherché. Puis, c'est là que j'ai tombé sur ce livre-là. Et donc, j'ai trouvé cet auteur-là qui a eu un grand impact sur moi dans la dernière année. C'est une personne qui est un auteur prolifique. Elle écrit beaucoup d'articles. C'est aussi une conférencière, ou c'était, je ne sais pas, parce qu'elle en parle pas mal au passé. Parce qu'elle est arrivée à un endroit où elle à 4 ans, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur. Son père, c'était un pasteur. Elle était dans une église évangélique. Et puis, c'était l'activisme. C'est beaucoup d'activités pour le Seigneur. Puis, elle est arrivée à un endroit où elle trouvait qu'il manquait quelque chose dans sa vie chrétienne. Et donc, je m'identifiais avec elle parce que c'est une fille de beaucoup de projets aussi. Puis je m'identifiais beaucoup à elle pour ça, parce que je parle beaucoup, parce que elle aussi, ça a l'air d'une femme qui parle tout le temps. Puis quand j'ai vu qu'elle-même, elle avait eu besoin de s'arrêter puis de rencontrer Dieu dans la solitude, je me suis dit, c'est intéressant, je m'identifie à elle. En passant, je suis avec un livre ici parce que depuis que je suis en technique informatique, je passe de 5 heures le matin à 10 heures le soir devant mon écran d'ordinateur. Fait que pour me donner du repos, j'ai décidé que le week-end, je fermais l'ordi. Fait que c'est pas de PowerPoint aussi à cause de ça. Donc, Juliane, elle a « Yeah! J'ai un break! » Pas besoin de présenter les PowerPoint à l'écran. Donc, je regarde comment la lumière frappe sur mon cahier, puis j'ai la misère un petit peu à lire mes notes. Fait que je vais probablement avoir quelque chose qui va mettre mon cahier comme ça la prochaine fois. Fait que je suis pas en train de chercher mes notes, je suis en train juste de retrouver où ce que je suis à cause que la lumière frappe sur mon cahier. Ah! Voilà! OK. Donc, elle-même, lorsqu'elle raconte dans son livre, elle commence à dire qu'elle est allée voir une conseillère chrétienne pour l'aider dans les difficultés qu'elle vivait, dans le vide qu'elle avait. La conseillère a dit, super, des conseils peuvent t'aider, mais là, on est rendu à un endroit où ce ne sont plus les conseils qui pourraient t'aider, mais tu as besoin de pratiquer la solitude et le silence. Et la conseillère lui a dit, tu as besoin de direction spirituelle, ou c'est une personne qui va plutôt t'accompagner à... Elle dit, t'as de l'air de l'eau de rivière qui a été ramassée dans un pot maçon, puis qui a été toute brassée. Fait que qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes sortes de sédiments, on voit toutes sortes de choses qui sont en suspens. Puis elle dit, t'as besoin de calmer, puis faire descendre ces sédiments-là pour qu'on puisse voir un petit peu plus clair. Et donc, elle avait essayé beaucoup de choses dans la vie chrétienne, et puis elle était devenue vide, fatiguée et épuisée. Et donc, une des pensées maîtresses de son livre, c'est que dans le cœur de chaque individu sur la planète, Dieu a placé en nous un désir pour le Créateur. Hein? Et donc, il y a un désir dans notre cœur pour plus, puis un désir d'être quelqu'un en dehors de ce qu'on peut faire, d'être quelqu'un en dehors de nos accomplissements. Et donc, l'entrée dans la solitude, c'est une invitation. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est manipulé, c'est pas quelque chose qui est forcé, mais Dieu nous appelle et on peut répondre à cette invitation-là. Un autre des principes de base que dès le commencement de son livre, elle nous raconte, et c'est ce que je vais apporter dans mon message aujourd'hui, c'est que la désolation est une puissance ou une motivation pour désirer plus. La désolation dans nos vies est une force ou une motivation qui va nous amener à vouloir plus dans notre vie. Donc, quand on voit le vide qu'il y a dans notre cœur, même si on est chrétien depuis longtemps, le vide qu'on a ou la vie de surface qu'on a, eh ben, c'est là qu'on va commencer à avoir la force de partir d'où ce qu'on est, puis d'aller à la conquête d'une vie plus profonde avec Dieu. C'est lorsqu'on arrive face à notre propre pauvreté spirituelle, émotionnelle, psychologique, qu'on va aller à ce Dieu-là pour être fortifié. Okay? Et donc, la désolation est une force qui va nous amener plus loin. Et Ruth, dans son livre, elle raconte qu'elle était déçue de sa marche avec Dieu et qu'elle avait été laissée quand même vide, incapable de vivre une vie victorieuse à laquelle Dieu l'appelait. Et donc, elle a répondu à cette invitation. Donc, le titre aujourd'hui du message, c'est « Accepter l'invitation, prendre le défi ». accepter l'invitation, prendre le défi. Le silence, la solitude est complétée seulement lorsqu'il y a du silence. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsqu'on est en silence qu'on peut laisser le monde perdre son emprise sur nous. C'est là qu'on va croire ce qu'on croit, puis on va douter de nos doutes. Et donc, un des premiers défis qu'on a, nous autres, les chrétiens, principalement, c'est la paradigme chrétienne. C'est-à-dire que on est une tradition, surtout nous, les protestants, on est une tradition, et c'est historique, très activiste, très orientée vers la parole. Pourquoi? Parce que le mouvement protestant, protester voulait dire attester des vérités. Hein, ça voulait pas dire être contre quelque chose, mais pour la vérité. Et on avait attesté 5 grandes vérités et on a amené une réforme contre un mouvement où il y avait beaucoup d'erreurs dedans. Et donc, on est connu, ou on se connaît nous-mêmes comme étant des gens du livre, hein, les évangéliques, donc de l'évangile, les gens du livre, les gens qui sont retournés à la Bible. Donc, la tradition de la parole, très important, tradition aussi qui est basée sur des mots, hein, et c'est avec raison, parce que c'est à cause de ça qu'on a pu amener une réforme dans le christianisme. Avec raison, parce que Jésus nous a dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc, tellement important d'être une tradition du livre. Par contre, on ne performe pas très bien dans les disciplines de la prière et de la contemplation. La prière, ça peut être une conséquence de justement de la réforme ou de Augustin qui depuis déjà la jeunesse de l'Église a amené que Dieu avait un plan parfait puis que Dieu contrôlait tout, que Dieu était souverain puis il n'y avait pas grand chose à y faire. Fait que les mercredis on étudie le calvinisme justement pour voir qu'est-ce qu'il en est de ça. Mais on n'est pas dans le christianisme, les protestants sont pas réputés pour la contemplation, la prière. On a peur du silence et les chrétiens, on lit dans Matthieu, c'est écrit qu'il y avait une maison qui avait été balayée, ornée et laissée vide. Et là, il y a eu 7 démons qui sont venus puis ont pris cette maison-là puis la condition de cette maison-là était pire que celle d'avant. Et là, on dit, et tout ce qui te fait faire le vide, c'est pas bon. Ah, si on étudie bien le contexte de ça, c'est Israël, quand Jésus a visité Israël, Israël avait fait de la réforme morale. Il essayait de nettoyer la maison. Il essayait d'être bon pour le Seigneur, mais ils n'ont pas accepté le Seigneur de la maison. Et ça a fait une religion qui était remplie de démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Puis la condition de cette maison-là a été rendue bien, bien pire. Donc Jésus, il ne nous dit pas par la parabole de la maison qui a été balayée, laissée vide, que quand que tu fais le vide ou que tu fais le silence, tu vas être vulnérable aux démons. Si vous auriez un voleur qui rentrerait dans votre maison, auriez-vous plus de chances de l'entendre s'il y aurait du bruit ou si ce serait le calme? OK? Si le diable vous raconte un mensonge dans votre tête, avez-vous plus chance de l'entendre, de le voir venir si vous êtes en silence ou si vous pensez à plein d'autres choses en même temps? Dans le silence, on a plus de chances de le pincer. On a plus de chances de le discerner. Fait que c'est quoi cette idée que quand tu es dans le vide, le diable a plus d'opportunités sur ta vie? Au contraire, si tu penses moins, ta pensée se repose plus. Si ta pensée se repose plus, tu vas le voir venir comme avec ses gros sabots. Donc, plusieurs versets dans la Bible qui nous dit « Gardez le silence devant l'Éternel ». Exode 14:14. Gardez le silence devant l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous. On se rappelle que c'est lorsque Dieu a ouvert les eaux puis que les Égyptiens s'en venaient dans un contexte de conflit, dans un contexte de pression, dans un contexte de j'aurais pas d'issue à mon problème. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. En fait, lorsque tu gardes le silence devant Dieu, tu es en train de te concentrer pas sur ta petite nature faible et pauvre, mais sur le Dieu qui t'accompagne et qui sera avec toi aussi dans les conséquences de ce que tu as à vivre. Hein? Psaume 37:7, dans un contexte d'injustice où le méchant prospère puis le juste semble subir l'injustice, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Psaume 37:7. Psaume 39:2. Hein? Par rapport à la folie de mon propre cœur, j'ai mis un frein à ma bouche et je me suis tué. Bien que malheureux. Il dit qu'il est devant l'Éternel, puis il dit, j'ai mis un frein à ma bouche. Je me suis tué, bien que malheureux. dans un contexte de vivre sa peine devant Dieu. Hein? Psaume 62, verset 1. Dans la Darby, c'est écrit, « Dieu seul, en Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. » Et dans la version anglaise, c'est intéressant, dans la American Standard Version, c'est écrit, « My soul wait in silence for God only. From him come my salvation. » Mon âme se repose s'attend dans le silence à Dieu. Et le contexte du psaume 62, il dit, je suis comme une muraille qui a des pierres qui ont commencé à tomber. Il est vraiment dans une faiblesse. Il dit, jusqu'à quand vous plairez-vous à pousser sur une muraille qui penche, hein, pour la faire chanceler? Jusqu'à quand vous consulterez-vous ensemble pour faire tomber celui qui est dans son poste élevé? Et lui, c'était le roi. C'est probablement David qui a écrit ça. J'ai pas vérifié. Psaume 62, vous pourrez vérifier si c'est lui qui l'a écrit. Mais il y a un contexte de solitude. De genre, je suis tout seul, moi, là, puis tu vois qu'il essaie de me faire tomber en bas, là. Je veux dire, c'est pas drôle, son affaire. Puis, ce qu'il dit, c'est intéressant. Le verset 2 du psaume 62, il dit, il m'arrivera pas grand malheur. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma retraite, il m'arrivera pas grand malheur. Il va m'en arriver. Je trouve ça drôle comment c'était écrit. Même dans la version anglaise, il m'arrivera pas, je serai pas totalement ébranlé. Il dit, je vais être ébranlé, je vais perdre des cheveux, je vais, wouh! Mais je serai pas totalement ébranlé. Et au verset 5, il dit, ouais, c'est ça, il dit au verset 2, je ne serai pas beaucoup ébranlé. Et au verset 5, il dit, mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement en Dieu. Et dans la version anglaise, c'est « My soul wait in silence for God only. » Car mon attente est en toi. C'est vraiment bon. Le psaume 62 au complet, là, c'est vraiment un très beau chapitre sur le silence devant Dieu. Psaume 41:1, « Faites silence devant moi, dit l'Éternel, que les peuples renouvellent leur force. Faites silence devant moi, venez vous charger. » Littéralement, venez vous charger. Dieu nous invite à ça. C'est une invitation. Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amos 5, 13. C'est pourquoi, en ces temps-ci, le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. Habacuc 2, 19. L'Éternel est dans le palais de sa sainteté, que toute la terre fasse silence devant lui. Zacharie 1, 7. Fais silence devant l'Éternel. Ésaïe 30, verset 15, dans la version Martin, Ésaïe 30, verset 15, vous pourrez réécouter sur Internet en passant si vous sentez que vous ne pouvez pas suivre. Mon but, là je vous mitraille de versets. Mon but, c'est qu'il y en a une balle qui vous atteigne, c'est tout. Okay? Si vous voulez revoir ces versets-là, vous avez l'enregistrement qui est disponible à la fin, puis vous avez le message gratuit sur Internet que vous pouvez aller réécouter. Okay? Donc, mon but, c'est pas vraiment, j'aurais pu vous donner un feuillet aussi avec tout ça, mais... L'idée, c'est pas vraiment que vous reteniez tout ça, mais que vous voyez qu'il y a quand même abondance de versets qui nous dit prends le temps de t'arrêter devant Dieu. Hein? Psaume 46, 11 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et dans l'original, c'est attendez en attendant. C'est pas t'es dans la salle d'attente, puis Dieu à un moment donné, il va te passer. C'est attends-toi pendant que tu es en train d'attendre. Attends-toi pendant que tu es en train d'attendre. Ésaïe 30, verset 15, dans la version Martin, dit, « En vous tenant tranquille et en repos, vous serez délivrés, et votre force sera en vous tenant en repos et en espérance. Mais vous ne l'avez pas agréé, etc., etc. » Jésus partit seul dans la montagne pour prier. Il est revenu, il a choisi ses 12 disciples. Des choix importants à faire. Il est allé seul dans la présence de son Père. C'est un défi, donc, évangélique, puisqu'on est des gens qui sont très actifs dans faire pour le Seigneur, mais pas très actif dans être devant le Seigneur. Et on veut explorer ça. Je veux, en tant que pasteur, qu'on explore ça ensemble. Et c'est une invitation. Le personnage qu'on va suivre tout au long de cette série, c'est Élie. Élie va être notre compagnon de voyage. On va lire le passage tantôt. Le passage qu'on va lire, ça va être dans 1 Roi, chapitre 19, si vous voulez tourner là. Ça va être le passage qu'on va étudier. Et durant cette série, on va suivre cette histoire-là. Il y a beaucoup à retirer de ce passage-là. C'est un défi évangélique, c'est un défi culturel. Culturel pourquoi? Eh bien, on se lève le matin, C'est quoi qu'on a dans notre main droite? Notre cellulaire. Notre cellulaire nous a servi de réveil matin, mais notre cellulaire, on fait réveil matin, fiou, après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon monde? Qui m'aime? Y a-t-il quelqu'un qui pense à moi? Fait que là, ça va voir si quelqu'un m'aime ou si quelqu'un pense à moi. Y a-t-il quelqu'un qui a liké qu'est-ce que j'ai écrit? Tu sais? C'est quoi qui est de nouveau dans mon monde? Puis là, on arrive, ploing, on s'en va, on est dans le lit. Twitter, nous autres c'est plus Facebook hein, ici au Québec, mais nous c'est Twitter. On est aussi disponible tout le temps. Notre cellulaire, ça fait bling. Moi, je suis en classe, bling. J'ai un téléphone même, je suis dans ma classe, fait que j'ai un choix de texto que je peux répondre. Je suis indisponible. On est accessible tout le temps. À cette heure, la ligne, je sais pas si la ligne fixe va rester dans nos maisons, tu sais. Je pense qu'éventuellement, on n'aura plus de ligne fixe, puis à moins qu'on soit en campagne, puis ça se rende pas. Et on a un défi, donc, parce qu'il y a toujours un bruit qui est en arrière-plan. On est toujours disponible pour tous les besoins. Nos enfants au primaire partent avec un cellulaire à cette heure. On veut savoir où ils sont. Ils ont un GPS avec eux autres tout le temps. On les suit. On peut les suivre. On peut les appeler s'il arrive quelque chose. Et il y a toujours du bruit en arrière-plan. Il y a toujours une télévision qui fonctionne dans la maison. Ou encore, il y a toujours un fil d'actualité qui vient, qui je suis dans l'actualité du monde, mais je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi nécessairement. Et donc c'est un défi de dire, sais-tu quoi? Off, off, off. C'est un défi aussi relationnel parce qu'il va falloir que le monde se passe de moi pendant 10 minutes. Je suis inaccessible. Il y a une pancarte sur ma porte, c'est marqué ne pas déranger. Je ferme la porte. Et Jésus dit, quand tu pries, ferme la porte de ta chambre, de ton garde-robe ou de ta salle de lavage, ou peu importe, ferme la porte. Et c'est un défi relationnel parce qu'il faut laisser le monde de l'extérieur ne pas nous interrompre pendant une période donnée de temps. Hein? Quand la situation le permet. Si tu as des enfants de moins de 1 an, puis tu vas t'enfermer dans la salle de lavage, puis tu dis « ne dérange-moi pas », là, il y a un problème. Mais quand la situation va le permettre, il va falloir que le monde sache que le monde peut continuer à tourner sans toi pour une période déterminée de temps. Et donc, c'est aussi un défi psychologique. Pourquoi? Parce que le bruit dans nos vies a tendance à amener ce qu'on appelle la diversion. Je vais en parler tantôt de Blaise Pascal qui parle de la diversion. Mais grosso modo, l'occupation de d'autres choses, si je suis diverti, ça veut dire que je suis pas obligé de penser à ce qui va pas dans ma vie, dans mon cœur. Et donc, le bruit est devenu un confort de la distraction. Et quand je pars en vacances, je l'ai dit souvent, quand je pars en vacances, puis que je m'en vais dans mon sauna, les 2-3 premiers jours, c'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient, toutes ces mauvaises pensées, ces affaires? Et là, je m'aperçois que tout ce que le bruit a gardé comme ça, le silence le fait sortir. Fait que ça va mal avant d'aller bien. Okay? Fait qu'on aime mieux rester occupé puis pas traiter qu'est-ce qui va pas dans notre vie. Mais à chaque fois qu'il y a une chose qui est pas traitée, que ce soit un conflit non géré, que ce soit une émotion de deuil qui est pas gérée, que ce soit toutes sortes d'affaires qu'on a ramassées comme ça qui sont pas gérées, puis qu'on est capable de rester dans l'activité, ça va. Mais à un moment donné, le bain, quand il arrive bien bas, on entend... On entend le vide de notre cœur. On entend notre misère humaine. Et psychologiquement, c'est un défi, la solitude. De fermer le son, fermer les switches. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être être obligé de gérer l'ingérable. Peut-être qu'on l'appelle l'ingérable ou le non-géré. Finalement, c'est un défi qui est spirituel aussi parce que Satan sait que si nous expérimentons Dieu d'une façon nouvelle et puissante, l'emprise du monde, de la chair et de Satan vont perdre de l'emprise sur notre vie, alors qu'on est plus dans la présence du Seigneur puis plus rempli de qui il est. Et donc Satan est un de ceux qui va viser la suroccupation des individus. Pas surprenant que depuis 20 ans, Walmart puis toutes les autres sont ouverts le dimanche, puis il y a même des épiceries ouvertes 24 heures. Pas surprenant. Tu peux avoir tout. Maintenant, le progrès a cette valeur pernicieuse, puis j'aime le progrès, là, mais je regarde qu'est-ce qu'il y a aussi en arrière. Il y a cette idée de, il y a des esclaves, là, je veux pas qu'ils vont donner ce progrès-là. Là. Ceux qui travaillent là, la nuit dans un supermarché, là, et on est là toujours, il faut que ça fonctionne, il faut que ça vire tout le temps, cette affaire-là. Parce que si l'homme s'arrête, Satan sait, si l'homme s'arrête, il va commencer à penser à cette aspiration qu'il y a dans son cœur pour quelque chose de bien, bien plus que ce qu'on peut trouver dans ce monde ici-bas. Et donc, un des ennemis de la tranquillité et du repos, c'est Satan. Satan pourrait travailler dans votre vie à vous garder occupé tout le temps pour justement que vous ne voyez pas les pièges et l'emprise qu'il peut avoir sur votre vie. Hein? On voit un bon exemple de ça avec le fils prodigue. Animé par ses convoitises, désirant une vie qui est plus que le monde a à lui offrir, mais il arrive à un endroit où il rentre en lui-même. Il a le temps de réfléchir. C'est plus la fête, il n'y a plus d'argent. Mais là, il est à l'intérieur de lui, puis il aimerait bien manger de la nourriture qu'on donne aux cochons, mais on ne lui en donne pas. Et là, il réfléchit. Il y a une invitation dans son cœur qui refait surface. Mais cette invitation-là qui refait surface, elle était enfouie dans les convoitises de ce monde, dans les choses à faire dans ce monde. Mais à un moment donné, il arrive ce temps de silence où le silence, Satan a perdu son emprise sur lui. Satan pouvait plus le garder loin de son père parce qu'il dit, crème, j'étais bien dans la maison de mon père. J'étais bien quand j'écoutais. Et là, il revient et là, il rencontre son père à nouveau et c'est une belle nouvelle. Vous êtes dans 1 Rois, chapitre 19. On va lire ça du verset 1 au verset 19. On va voir un bel exemple dans la vie d'Élie, homme de Dieu incroyable. Comment il a eu besoin, lui aussi, du silence. Un roi, chapitre 19, versets 1 à 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche dans le désert, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressé en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il lui répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il lui répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Donc, dans cette histoire-là, on voit un Élie qui est épuisé. C'est un Élie qui... Ah tiens, je vais mettre mon livre comme ça. C'est un Élie qui a servi le Seigneur, qui a eu du succès, que le Seigneur a fait des grandes choses au travers de lui. Mais là, on a un Élie qui est épuisé. On racontera peut-être un peu plus son histoire dans les autres fois. Là, ce qu'on veut voir dans cette histoire-là aujourd'hui, c'est que l'ange est venu pour le fortifier et ce qu'il a fait, c'est un gâteau cuit sur des pierres qui avait été réchauffé. L'ange s'occupe des besoins du corps d'Élie. Quand notre corps est fatigué, ça l'affecte toutes les autres santé de notre vie. En janvier, je me rappelle pas quelle année, mais j'avais fait un message sur le corps, la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique et la santé spirituelle. Et j'ai aimé ça, il y a un frère qui m'a rappelé ce message-là récemment. Et j'ai dessiné des pots, 4 pots, un à côté de l'autre. Et quand il y en a un qui se vide, il vide aussi les autres. Que ce soit le corps qui soit fatigué en premier, tu vas perdre éventuellement ton jugement spirituel, tu vas avoir des conflits dans tes relations interpersonnelles. Et peu importe lequel qui se vide, et dans le cas ici d'Élie, c'est un conflit relationnel qu'il a. Ce conflit relationnel-là, le domaine émotionnel va se vider. Et qu'est-ce qui va arriver? Il a juste le goût de dormir. C'est sûr qu'il a marché une journée de temps dans le désert. Il doit être fatigué aussi. Mais il y a une fatigue physique qui est là. Il est épuisé. Il est drainé psychologiquement. Ça doit participer à sa fatigue physique. Donc, premièrement, un conflit relationnel. Deuxièmement, vide psychologique. Troisièmement, épuisé physiquement. Puis, quatrièmement, frustration après Dieu. Ton plan, ça marche pas, Dieu. Je veux dire, je t'ai servi, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire, puis je suis déçu parce que ça a pas fonctionné. Donc, quand il y a quelque chose qui se vide dans un des domaines de notre santé, que ce soit physique, psychologique, relationnel et émotionnel ou spirituel, ça a un effet de vider les autres comptes de banque qu'on a dans notre vie. Et la première chose que l'ange va faire, c'est pas de s'occuper de ses conflits avec Jézabel ou le roi Achab. La première chose que Dieu va s'occuper, c'est de lui faire à manger puis de le laisser dormir. Dormir suffisamment. Manger bien. Et on n'en parle pas beaucoup dans les églises évangéliques parce que une des choses qu'il nous reconnaît aussi, c'est que nous, on est beaucoup plus sur les réalités dernières, c'est-à-dire le corps, c'est temporaire, l'éternité, c'est pour toujours. Fait qu'on est bien gros sur préparer notre éternité, gagner des âmes pour le ciel, mais on n'a pas une culture très riche de prendre soin du corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est l'habitation du Saint-Esprit de notre corps et c'est important d'en prendre priorité. Donc, la première chose qui est adressée dans cette histoire-là, c'est un lunch fait par un ange de dos. L'ange qui le réveille, fait encore manger, le laisse encore dormir, puis le réveille, puis je pense qu'il va manger 2 fois, puis il va lui dire à un moment donné, la route que tu as à faire est trop longue pour que tu manges pas. Tu as une route trop longue à faire pour pas être en forme. Et donc, quand notre corps est fatigué, on perd notre focus sur Dieu, on perd notre focus sur la réalité aussi. Et le défi, c'est de retrouver la force, retrouver la santé dans le domaine de notre possible. Et donc, la discipline du silence va affecter notre corps, va affecter notre pensée et notre âme. On a vu que ça affectait notre corps, on va parler de la pensée. Notre pensée est toujours occupée à planifier. Elle est occupée à solutionner des problèmes. Et quand on veut essayer de faire le silence, il y a une affaire qui va être notre adversaire, c'est que les petits singes vont commencer à nous grimper dessus. Les petits singes, c'est toutes les choses que, c'est comme, me semble, faudrait que je fasse une brassée de lavage. Me semble, faudrait que j'aille faire ça. Ah, ça, j'ai pas fait ça, là. On dirait qu'on vient de donner un petit peu un break à notre pensée, puis là, toutes les choses qu'on a à faire. Fait que c'est les singes qui montent comme ça. Et c'est donc un des défis qu'on va avoir si on décide de faire le silence, c'est que de s'occuper de ces singes-là. Et ces singes-là, on va leur donner un congé. Comment on va faire ça? On va avoir un calepin à côté de nous autres, puis on va écrire dessus, mais pour le moment, c'est pas le temps de penser à ce singe-là. Tant mieux s'il est venu. Ça veut juste dire qu'il est en suspens, puis il n'y a personne qui s'en occupait. On le met sur la feuille de papier, on l'écrit, puis notre cerveau dit « OK, on va y revenir plus tard », puis on laisse pas notre pensée de notre adversaire, parce que on veut essayer. En fait, le silence, quand on veut le pratiquer, c'est pas qu'on veut plus penser, c'est qu'on veut moins penser. Et donc, on dit à notre pensée, sais-tu quoi, tu m'as servi bien jusqu'à présent, tu planifies bien, tu organises bien, tu résous bien les problèmes, il n'y a pas de problème avec ça. Puis on n'est pas ennemi de ça, je ne suis pas ton ennemi, mais présentement, on va te donner une pause. On va juste te permettre de relaxer un petit peu. Et donc, on ne veut pas éliminer la pensée. L'idée, c'est pas être dans le cœur, pas dans la pensée. Vous savez où est-ce qu'on est par rapport à ça, nous, ici à l'Église? Ça n'existe pas sur le cœur et la pensée, comme si... Non. On fait juste donner une pause à notre réflexion, tout simplement. Puis on dit, bon, OK, tout ce qui te préoccupe, on l'écrit sur la feuille de papier, mais on va y revenir plus tard. Dans 1 Corinthiens 2:10, il est écrit que l'homme spirituel, Dieu révèle des choses par l'Esprit à l'homme spirituel. Et tous ceux qui ont reçu le don de la vie éternelle ont reçu l'Esprit-Saint. Et donc, Dieu est intéressé à donner des convictions spirituelles dans notre fort intérieur. Il ne parlera pas d'une voix audible. Je ne dirai pas le mot « entendre Dieu nous parler » nécessairement. Si je dis ça, référez-vous à la parole écrite. Donc, si je dis « c'est faire taire notre pensée pour entendre Dieu parler », référez-vous à la parole écrite. C'est-à-dire, Dieu va révéler quelque chose des Écritures. Okay? Les convictions que le Saint-Esprit nous donne vont être très différentes de nos conclusions naturelles. Dans Ésaïe 50, il nous dit que, au verset 6 et 7, il nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant sont éloignées mes pensées des vôtres. » Si on est enseigné par le Saint-Esprit, si on a une conviction dans notre cœur qui vient, ça va être souvent quelque chose qu'on ne serait pas arrivé juste par la réflexion naturelle. Ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme naturellement, des choses que Dieu a préparées puis qu'il montre à ceux qui l'aiment. Dans 1 Corinthiens 2:9. Donc, c'est certain que si le Saint-Esprit essaie de nous montrer quelque chose sur nous-mêmes, sur notre monde dans lequel on est ou sur lui, c'est la même affaire que le voleur tantôt. On a-tu plus de chances de l'entendre s'il y a plein de pensées ou si on a appris à faire le silence devant l'Éternel? Donc, si Dieu essaie d'avoir mon attention, c'est dans le calme et la tranquillité que je vais être capable de discerner qu'est-ce que Dieu veut me dire ces temps-ci? Donc, calmer notre pensée pour comprendre qu'est-ce que l'Esprit illumine dans mon esprit, c'est un défi de la pensée. Et ça va être un autre challenge. Une autre chose que la discipline de la solitude et du silence va faire, c'est que ça va affecter notre âme. Dans le psaume 131, on voit un bébé et l'auteur dit « J'ai l'âme tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. » Un enfant qui vient d'avoir eu l'allaitement, qui est bien dans les bras d'un plus fort, en sécurité. Un enfant fragile qui repose dans une permanence d'être aimé. Donc, dans cette sécurité. Et un enfant qui, s'il avait de la peine, n'a pas caché sa peine, s'il avait faim, avec une avidité qui était non productive, puis là, il coulait chaque bord de la bouche, il était tel qu'il était devant son parent. Okay? Et celui qui écrit le psaume 131, il dit « J'ai l'âme tranquille comme un enfant qui est sevré. Je n'ai pas de questions trop grandes pour moi. » Il est juste là, il est dans la présence de son parent. Il ne fait pas juste que de savoir des choses sur son parent, il est dans la présence de son parent. Et quand on est dans la présence du Seigneur, c'est pas juste qu'on a su des choses sur lui. Beaucoup d'entre nous, on va écouter un message sur la tranquillité, mais pas toutes nous autres, on va essayer de se confier en Dieu dans la tranquillité. On est bon pour lire des choses, des livres sur la prière parce qu'on veut prier plus, mais c'est une chose de lire des choses sur la prière, c'est une autre chose de commencer à prier. Ben, c'est la même chose avec notre Dieu. On sait celui en qui on croit. Hein? Et donc, l'enfant connecte au-delà de ce qui peut être dit Hein, et notre relation avec Dieu a besoin de mots. C'est certain qu'elle a besoin de mots, mais pas seulement des mots. On a besoin de confiance dans ces mots qu'on a entendus. On a besoin de faire confiance à ces mots-là puis dire « oui, ça c'est vrai ». Mais plus que ça encore, on a besoin de faire confiance en celui de qui ces mots sont dits. Je sais pas si vous voyez la distinction. On a besoin des mots. On a besoin d'avoir confiance que ces mots-là sont la vérité. Mais plus encore, on a besoin de faire confiance en celui de qui ces mots sont dits. Et donc, on a besoin de désirer rencontrer celui de qui on parle. Je suis bien à l'église, j'entends parler de Dieu. Je suis bien avec Dieu de qui on m'a parlé. Dire comme la Samaritaine, avant je suis venu parce que les autres m'ont parlé de toi, mais là c'est plus à cause d'eux autres que je viens à toi, c'est parce que c'est toi. C'est ce qu'elle va dire à Jésus. Elle dit, avant je suis venu parce que j'ai entendu parler de toi. Mais là, c'est plus à cause d'eux autres que je crois, c'est à cause de toi. Donc j'ai entendu parler de Jésus, mais là je suis avec celui dont on m'a parlé. Et c'est ça, ça change complètement. Vous êtes la terre de mission de Jésus-Christ, premièrement. La dernière partie de mon message. OK. L'auteur a dit, quand elle a commencé à chercher la présence de Dieu de façon plus profonde, elle a dit, j'aimerais vous dire que ça venait d'un désir pieux, d'un désir pur pour Dieu. Mais c'est pas un désir pour Dieu qui nous amène à Dieu. C'est un désir pour quoi? C'est un désir pour nous-mêmes. On s'approche de Dieu pour nous. Hein? Et donc, c'est le constat de notre déficit réel. On voit notre compte de banque et on sait qu'on est vraiment pauvre. On a réalisé notre pauvreté et c'est ce qui nous amène à Dieu et à son royaume. Dans Matthieu 5:3, Jésus dit en disant les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire, pauvre en esprit? Ça veut dire des clochards. Heureux les clochards en esprit. Heureux ceux qui n'ont rien pour eux. Heureux ceux qui n'ont pas de moyens en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus est vraiment en train de prendre les pauvres personnes en Israël puis dit heureux ceux qui sont des quêteux spirituels. Et donc, à moins que j'aie réalisé ma pauvreté et mon déficit devant Dieu dans le monde, j'ai pas besoin d'aller m'approcher de ce Dieu-là pour refaire mes forces. Parce que j'ai une batterie qui m'est suffisante encore. Donc, le constat de mon déficit, c'est ce qui va m'amener à Dieu. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui ont rien pour eux, c'est ceux qui ont rien en eux. Et Jésus, il va donner une parabole dans Matthieu 21, verset 31, de deux fils. Un père demande à ses deux fils de faire quelque chose pour lui. Un dit non, puis il finit par le faire. Puis il y en a un qui dit oui, puis il finit par pas le faire. Et après cette histoire-là, il va dire ceci. Il va dire, les prostituées et les publicains, ça c'était ceux qui volaient les gens en leur chargeant des taxes illégitimes, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume des cieux. Et il parlait à des pharisiens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez dit oui au début, mais vous avez fini par dire non. Vous êtes, quand il y avait la montagne en feu, puis qu'il y avait la montagne tremblante, puis que vous avez dit oui, on va faire qu'est-ce que Dieu veut, vous avez fini par pas le faire. Mais les prostituées puis les voleurs, eux autres, ils ont commencé par dire non. Ils vivaient comme s'ils vivaient pas pour Dieu. Puis à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils étaient pauvres, qu'il y avait rien en eux. Ils avaient juste besoin d'être pardonnés. Ils sentaient qu'il n'y avait rien en eux pour que Dieu les accepte, mais ils sont venus parce qu'ils ont compris la grâce de Dieu. Et eux autres vont vous devancer dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont dit non au début, mais ils ont fini par dire oui. Et l'idée, c'est quand tu réalises, comme le publicain ou la prostituée, que tu n'as rien à offrir à Dieu, puis que Dieu t'invite quand même, puis qu'il dit, viens, je vais être ta force, viens, je vais être ta pureté, viens, je vais être ton nouveau départ, viens, je vais te fortifier dans ta faiblesse. Eh bien, le publicain, il dit, j'ai rien à donner. Dieu dit, c'est exactement ce que ça prend. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. T'as rien à donner, tu es donc prêt à recevoir. C'est le message de l'Évangile. Et donc, comment on peut faire une application de propre personne de ça? C'est que, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, Non seulement on a le royaume, mais on a le roi du royaume. Parce qu'on sait que dans ce monde ici-bas, il n'y a rien pour satisfaire le vide et la pauvreté de notre cœur. Je regarde en moi, puis qu'est-ce que je vois? Une pauvreté intérieure. Je ne suis pas suffisant en moi-même. Je suis pas capable d'aimer ma femme et mes enfants. Je suis pas capable. C'est comme quelqu'un qui a le cancer puis qui dit, il n'y a pas de remède ici, mais si je vais dans un autre pays, il paraît qu'il y a quelque chose. Il paraît qu'il y a un spécialiste. Et la personne, c'est pas important le montant qu'elle va mettre, l'énergie qu'elle va déployer. Elle part à la conquête, elle sait où ce qu'elle est, elle sait où ce qu'elle part, mais après ça, le reste, c'est de l'aventure. Ben, nous autres, on a reconnu qu'il y a rien de bon en nous, puis ce monde n'a rien à nous offrir qui remplit vraiment le vide de notre cœur. Il y en a qui sont encore en train de chercher l'argent. Il y en a qui sont encore en train de chercher le plaisir sexuel. Il y en a qui sont en train de chercher partout. Mais nous sommes arrivés à un endroit où nous sommes pauvres et ce monde n'a rien qui va satisfaire le vide de mon cœur que les choses d'en haut. Et nous partons à la conquête des choses d'en haut. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Hein? Et donc, on cherche avec un désir ardent ce que ce monde ne peut pas nous donner et on est prêt à explorer en dehors du monde ce qui pourrait rencontrer les besoins profonds de notre cœur. Même si mon monde extérieur semble fonctionner, je le sais, moi, qu'à l'intérieur, ça fonctionne pas. Je sais que je lutte avec un manque d'amour. Je lutte et j'ai des conflits avec les gens à cause de mon ego qui est trop grand. J'ai des frustrations à cause des obstacles qui sont dans mon chemin. Je suis déçu du décalage entre ce que je sais et ce que je devrais faire et ce que je devrais être. J'ai réalisé que je suis pauvre et cette réalisation-là m'ouvre la porte du royaume. Mais en plus de ça, elle m'ouvre la porte du roi. Non seulement j'ai accès au royaume, mais j'ai accès au roi de ce royaume-là. Et quelle chose belle d'être invité par quelqu'un qui désire notre compagnie. Jésus dit, j'ai désiré ardemment manger avec vous. Quel privilège d'être un disciple et de se faire dire ça par Jésus. J'ai désiré manger vivement cette Pâque avec vous. C'est une belle chose d'être invité. Être invité en plus par quelqu'un que tu sais qui aime ça quand tu es là. Dieu nous invite dans sa présence. L'eau de notre rivière, ce sont des émotions. L'eau brouillée de rivière, ce sont nos émotions, nos pensées, les événements non gérés de notre vie. Les questions non répondues de ma vie comme « Pourquoi je suis pas capable de toujours dire… » Pourquoi je dis toujours non? Je dis jamais non, je veux dire. C'est un autre problème. Je dis toujours non. Mais pourquoi je suis jamais capable de dire non? Pourquoi est-ce que je coupe toujours la parole des gens? Pourquoi est-ce que j'ai peur toujours d'en manquer? Il faut que mon garde-manger en ait comme pour 3 mois d'avance. Pourquoi est-ce que j'ai peur de finir tout seul? Etc., etc. Blaise Pascal, qui est un mathématicien et philosophe, parce que dans l'ère moderne, on ne séparait pas la foi de la science. On avait des très, très bons scientifiques qui disaient des choses sensées sur le Créateur. Il a dit ceci, « Toute la misère des hommes surgit d'un seul fait, ils ne peuvent pas rester en silence dans leur chambre. » Toute la misère des hommes surgit d'un seul fait, ils ne peuvent rester en silence dans leur chambre. Pensez, page 136. Les raisons qu'il avance, Pascal, pour dire ça, il dit que la pauvreté et la faiblesse de notre condition, c'est à cause de la faiblesse et de la condition de notre mortel, de pécheur. Et pour pas penser à cette condition, on se tourne vers la diversion. La diversion, c'est de, je suis bien dans la misère dans moi, mais je regarderai pas ma misère, fait que je vais essayer de soit faire du sport, m'éclater dans la vie, on va se divertir pour oublier ça. Mais Pascal parle d'un autre instinct à l'intérieur de nous qui reste de la grandeur de notre nature originale. Il dit, elle nous enseigne que le bonheur existe en réalité et que c'est dans le repos et non pas dans le fait d'être tiraillé qu'on va le trouver. « Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On dit, j'ai un problème, j'ai perdu mon repos, je vais donc trouver une solution, je vais réparer la chose et je souhaiterais qu'après avoir fait ces actions-là, je retrouverai ma paix. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu nous invite à l'inviter dans nos vies. Nous, on va résoudre nos problèmes et on pense qu'on va trouver le repos après. Et l'illusion qu'on a, c'est, il manque juste un petit peu de temps. Juste un petit peu de temps, je vais régler cette situation-là, puis là, je vais trouver le repos. Mais le repos, comme Blaise Pascal nous dit, c'est pas dans l'activité et dans le tiraillement qui se trouve. Il se trouve dans le repos. Il se retrouve dans quoi? Dans une décision et dans la pratique de la présence de Dieu. La décision, c'est de laisser l'emprise du monde, se libérer de l'emprise du monde, de la pensée du monde, relâcher mon sort dans les mains de Dieu, incluant ma réputation, mon succès dans les mains de Dieu. La décision, lorsqu'on dit, hey, c'est-tu quoi? C'est gros cette affaire-là, je vais m'arrêter. C'est pas de ne pas agir, mais c'est comment je vais agir. Je m'arrête et c'est pas que je n'agirai pas, c'est que je vais essayer de comprendre comment je vais agir et je vais agir dans la dépendance de Dieu au lieu de dans l'indépendance de Dieu. Et je n'agirai pas seul, je vais agir avec celui qui va m'aider dans les résultats. Je vais agir avec celui qui va aussi être avec moi dans ces résultats-là et ma part va être motivée par le fait qu'il fait sa part. Et ça, c'est merveilleux parce que tu viens de passer de celui que son compte est complètement vide à celui qui s'en va vers celui qui est complètement suffisant. Puis tu dis, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Parce que tu es peut-être juste le starter du bulldozer. Peut-être que c'est Dieu qui va faire tout l'exercice ou presque. Mais tu as quand même starté cette affaire-là parce que tu t'es arrêté à Dieu. Tu t'es arrêté, tu t'es attendu en attendant à Dieu. C'est pas plus de temps qu'on a besoin, c'est de décision et de discipline. La décision va contraire au monde. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est on a appris à se débrouiller sans Dieu. C'est pas compliqué. On a appris, même notre personnalité, on l'a fait façonner en apprenant à se débrouiller sans Dieu. La solitude, en conclusion, va être, le silence et la solitude vont être les choses les plus attaquées par Satan. Parce que quand vous faites la solitude et le silence, vous vous attaquez à la source même des mauvaises actions dans votre vie et de la misère qu'il y a dans le monde. Solitude, on veut dire quoi par là? Choisir de rien faire pendant une période étendue de temps. Et le plan d'atteindre quelque chose, tu sais, dire « je vais être productif », là, doit être mis de côté. Donc, tu le dis, je vais passer du temps non productif à être devant Dieu. Parce que l'esprit de ce monde, c'est « faut produire ». Mais là, pendant que je fais ça, il n'y a pas de lavage qui va se faire. Pendant que je fais ça, il n'y a pas ça qui va se faire. Non. Mais tu vas être dans la présence de ton Dieu. Tu vas passer du temps non productif, entre guillemets, pour être devant Dieu. Okay? Et c'est complété par le silence. C'est pas un moment, je suis pas en train de vous enseigner sur la prière ou sur la lecture ou garder votre cerveau bien activé sur une recherche. Le silence complète la solitude où vous relâchez l'attention qui est sur la réflexion, justement. C'est pas un temps non plus de prière, c'est pas un temps pour formuler des demandes, c'est un temps pour relaxer. Et on a tous besoin de quelqu'un qui va nous dire qu'il y a de la place pour ça dans nos vies, que c'est pas de la paresse. Hein? Et aussi, qu'est-ce qui va nous arriver si on le fait? Moi, une des choses que ça a fait, c'est vous que ça a fait? D'abord, ça me calme. Deuxièmement, je suis présent dans les autres moments de ma vie. C'est comme si j'arrêtais, puis ma vie était en arrière, puis là, quand je faisais silence, elle venait me rejoindre. Puis là, quand je sortais, j'avais souvent écrit bien des affaires qui n'étaient pas gérées. Ça m'avait aidé beaucoup à aller voir toutes les choses qui n'étaient pas gérées, mettre ça de côté et revenir plus tard. Mais ça me fait que quand je parle avec Louise, je suis avec Louise. Je suis moins dans le regret de, ou des choses que je n'ai pas faites ou dans les dans le futur que je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. J'ai la larme tranquille comme un enfant sevré près de sa mère. Et cette tranquillité-là, je l'amène aussi dans mes activités que je fais. Je ne dis pas remplacer toute votre lecture de Bible par ça. Je dis prenez un temps dans votre temps de dévotion pour faire le silence devant l'Éternel. Okay? Et donc, on a besoin de gens qui vont nous dire, sais-tu quoi, ça va être béni de faire ça. Il y a de la place pour ça. Et les enseignements qu'on va faire dans les prochains dimanches, ça a pour but d'ouvrir votre réflexion à est-ce qu'il y a-t-il pas une invitation? Les messages vont servir à une invitation que vous ne serez pas contraint de dire oui, mais attiré peut-être à ça. Dites-vous en partant, si vous décidez de commencer à essayer ça, que vous allez avoir besoin de pratique, puis vous y arriverez probablement pas. Mais ça va vous servir de référence, parce que quand vous allez y arriver, dans votre tête, ça va vous dire es-tu bien, là? La chaise me parle à chaque fois que je passe devant. C'est parce que c'est la place que je me suis mis. T'sais. On va parler dans mon premier message qu'on va faire après l'introduction, on va parler de se mettre une place à part pour ça. Et ça va devenir une référence à laquelle on peut revenir. Donc, comme je disais, ça va être Élie qui va être notre compagnon par rapport à ça. Et donc, je vais terminer mon message dans quelques instants. C'est cool, hein? J'ai mes notes au début de mon cahier, puis mon message un peu plus loin, mais je me suis fait des petits courts-circuits. J'ai tout numéroté mes lignes, fait que là, je dis, OK, page 13, L9, je suis en programmation, hein? Fait que je m'amuse. Dans le fond, peut-être que moi, je parle là-dessus, puis vous dites, c'est-tu vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux vraiment aller à cet endroit-là où, pour un certain temps, je vais voir des... Est-ce que l'eau va pas devenir un peu plus brouille? Il me semble que tout marche, là. Je veux dire, tu sais, il y a un dicton qui dit « ça marche, tout j'y pas. » Là, tu es en train de me dire là, que là, je vais faire le silence, mais des choses qui vont pouf, les choses qui sont pas gérées de ma vie vont monter en surface. Peut-être même que c'est la peur qui vous anime. Puis, dans le fond, ça va amener plus... Vous pensez que vous allez avoir plus de confusion. Peut-être que pour vous, ça fait pas de sens parce que vous, ça fait juste du sens quand il y a des mots. Puis là, il y aura pas de mots, ça va être juste le silence. Mais ça veut peut-être dire que vous n'avez pas assez le cancer pour faire ça. Vous n'êtes peut-être pas assez mal pris. Vous avez peut-être encore assez d'espoir en vous ou dans ce monde que vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus. C'est correct. Puis c'est pas avec moquerie que je le dis. Mais celui qui est arrivé à cette pauvreté, celui qui a un diagnostic de cancer, qui sait qu'il va crever dans pas long, puis qui sait qu'il y a un spécialiste qui pourrait faire quelque chose pour lui, puis qui décide de partir à la conquête, eh bien, c'est le pauvre, ça, qui va avoir le roi, puis le royaume, puis le roi. Okay? Puis peut-être que le silence, c'est peut-être pour aller voir, je suis vraiment pauvre, Seigneur? Je suis vraiment pauvre en esprit? Est-ce que vraiment je suis? Je peux rien faire. T'sais? D'autres, c'est la peur du silence. Mais c'est certain que ce que je vous propose, il y a un risque, c'est de passer au travers ces craintes-là. Je me suis fait un petit raccourci, il faut que je vous lise ça. Et je termine avec ça. Dans l'histoire d'Élie, on voit qu'Élie était complètement exaspéré. Et il a besoin de laisser le désespoir de sa pauvreté le pousser à avoir des désirs nouveaux. Et Dieu se révèle d'une façon fraîche et nouvelle à lui. On va arrêter le message juste ici. On va remettre ça au Seigneur. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, tu sais qu'on n'est pas une tradition qui est habituée à écouter, qui est habituée à faire le silence, qui est habitué à la contemplation. Et comme dans toute tradition, il y a des gens qui sont des exceptions et ont goûté à ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui... Peut-être quand je prêchais, le sentiment que tu avais, c'est que tu t'ennuyais de Dieu. que tu entends des choses sur lui. Peut-être que tu lis à chaque jour ta Bible, tu sais des choses sur lui. Peut-être que tu lui parles aussi, tu le pries, mais peut-être juste comme sur le coin de la table ou comme une liste de choses. Et puis la prière est essentiellement de demander des choses. Hein? Et aujourd'hui, on n'a pas dit qu'il fallait pas faire ces choses, au contraire. Mais tu t'ennuies du Dieu de qui on t'a parlé. Et ce désir que tu as dans ton cœur, c'est une réponse à l'invitation du Père. Il désire ta présence. Il dit, si quelqu'un frappe à ma porte, je frappe à la porte de ton cœur, et si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Quelle belle chose que d'être invité par le Dieu des cieux. On a vu plusieurs passages aujourd'hui qui dit « Garde le silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. » Une invitation à faire taire les différentes pensées qui font de l'ombrage peut-être à ce que l'Esprit voudrait te dire, te communiquer, les convictions qu'il voudrait répandre dans ton cœur. C'est une invitation. Et ne sens pas que tu dois être forcé à répondre à cette invitation-là. Tout au long de la série, ce sera des occasions d'embarquer dans le train si tu veux, si tu as le goût. Peut-être tu dis, je sais pas comment commencer. Trouve-toi une roche sur le bord d'une rivière. Prends ton bicycle, va faire le tour du carré. Trouve une manière, demande au Seigneur une manière que ça va être juste toi puis lui. Dans le cœur de chaque personne, il y a ce désir pour Dieu. Parce que Dieu nous a créés en son image, puis il nous a créés pour lui aussi. Blaise Pascal a dit ailleurs, Dieu nous a créés avec un vide qui a sa forme à lui. Et le cœur de l'homme ne se repose qu'en lui. Mais reste à toi de faire taire les distractions dans ta vie pour réaliser ta pauvreté sans lui. Peut-être que dans mon message, tu as vu que tu étais satisfait et rassasié, mais que ce qui rassasiait ton âme, c'était ce qu'il y avait dans le monde. Que tu n'étais pas totalement assoiffé et affamé pour les choses de Dieu. Mais même ça, serais-tu prêt à l'amener devant Dieu pour qu'il crée en toi ce désir pour lui? Père, je te remercie pour... Merci de te révéler à nous. Merci de nous avoir laissé l'Écriture. Merci de nous montrer que tu nous invites dans le royaume et dans la pièce du roi. Non seulement on a le royaume, mais on a le roi aussi. Alors, on veut pas être ceux qui disent oui, 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 puis que finalement ils font non. Peut-être qu'il y en a ici qui sont dans la salle qui ont dit oui à Jésus pour la vie éternelle, mais ils ont aucune relation avec le roi. On veut pas être ceux qui ont dit oui, puis que finalement ils disent non. Peut-être que vous êtes ici, puis au contraire, vous êtes vu comme plus celui qui a dit non, 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 par leur façon de vivre, par leur manière de vivre. Puis que l'invitation du Maître tient toujours et vous avez le goût de dire oui. Mais gloire à Dieu pour ça. C'est que vous avez réalisé votre pauvreté. Si vous connaissez pas Jésus-Christ de façon personnelle, Jésus-Christ est venu sur la terre pour vivre une vie parfaite, une vie qu'on aurait dû vivre. Puis il est mort de la mort qu'on devrait vivre. Il est mort puni pour nos péchés. La seule chose qu'il nous te demande, c'est de réaliser ta pauvreté, que tu ne peux pas te sauver toi-même, mais qu'il a payé pour toi, lui, de sa richesse, il a payé pour toi, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Tu n'as qu'à reconnaître ta pauvreté, accepter qu'il a payé pour toi et qu'il est ressuscité des morts pour te donner la vie éternelle. Si tu as entendu ce message et que tu aimerais recevoir le don de la vie éternelle, répète après nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu m'aimes tellement que tu es venu sur la terre pour être puni à ma place. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.